France Inter. Frédéric Métezeau, le 6-9 de l'été.
Le grand entretien et vos questions à venir au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr. Question à Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Nous serons rejoints dans quelques minutes. Nous donnerons la parole à l'ancien ambassadeur de France en Iran, François Nicoulot. Thierry Coville, hier, disparition du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukiya Amano. Il était en poste depuis 10 ans. Est-ce que ça peut avoir une influence sur les discussions autour du nucléaire iranien?
Je ne sais pas si ça aura une influence, mais c'est un événement important parce que faut se rappeler qu'il avait succédé à El-Baradei alors qu'on disait plutôt favorable à l'Iran dans le dossier du nucléaire iranien. Et finalement, je trouve qu'il s'est révélé un très bon directeur de l'AIEA. Notamment, il a fait respecter le droit international. C'est-à-dire, il n'a pas cédé aux demandes de Donald Trump, qui aurait tellement voulu que l'AIEA montre que l'Iran respectait pas l'accord. Donc, je crois qu'il y a eu 15 rapports de l'AIEA qui certifiaient à chaque fois que l'Iran respectait parfaitement l'accord, alors qu'il y avait une énorme pression américaine.
Alors, justement, les pressions américaines, est-ce qu'on peut imaginer que Trump va essayer de placer un directeur qui serait plus favorable à la politique américaine?
Ah, ça, c'est très clair. Je pense que ça, c'est, on voit à quel point c'est important d'avoir des agences internationales qui font respecter le droit international et qui sont pas sensible aux pressions politiques. Très clairement, les Américains, je rappelle, pour c'est l'anecdote, mais c'est trop gros, les Américains qui sont sortis de l'accord en mai 2018 ont quand même organisé une réunion à l'AIEA, je crois, il y a quelques semaines, parce que l'Iran avait commencé à sortir de l'accord. Donc, on voit les contradictions de la politique américaine et l'enjeu de la direction de cette organisation.
Thierry Coville, pour comprendre l'histoire, faut faire un peu de géographie. Situez-nous le détroit d'Ormuz, c'est le Golfe, hein, le Golfe Persique, quand on dit la guerre du Golfe, eh bien, le détroit d'Ormuz, on y est. Pourquoi il est stratégique? Pourquoi tous ces incidents avec des arraisonnements de pétroliers?
Alors, dans le détroit d'Ormuz, je crois que de chaque côté du golfe Persique, on a plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, on voit carrément les deux rives du golfe Persique. On voit la rive iranienne, notamment quand les pétroliers passent là. Et il y a à peu près 30% du trafic pétrolier mondial qui passe là. Donc, on le voit très bien. C'est très facile, en gros, pour dire les choses comme elles sont, pour l'Iran de perturber ces passages-là, et ça fait tout de suite pourquoi les gouvernements de la planète s'inquiètent, c'est parce que ça pourrait avoir un impact sur le trafic pétrolier mondial et donc notamment sur le marché pétrolier.
Mais quand l'Iran fait ça, par exemple en arraisonnant un bateau anglais, est-ce qu'elle est en dérapage contrôlé, comme l'expliquait Le Monde, ou est-ce que le journal Le Monde, ou est-ce qu'elle veut vraiment monter au front? Alors, joue l'Iran?
Oui, alors il faut bien expliquer ce qui s'est passé parce que il y a à peu près, je crois que c'est début juillet. Le Royaume-Uni a arrêté un pétrolier iranien à Gibraltar.
Dans un autre détroit.
Voilà. Et ils ont dit comme excuse, mais ils l'ont arrêté, ils ont envoyé l'arme militaire, ils l'ont arrêté, etc. Et ils ont dit comme excuse que c'était faire respecter les sanctions européennes contre la Syrie. Du côté iranien, c'est très mal passé parce qu'il y a les sanctions américaines. Leurs exportations pétrolières sont passées de 2,2 millions de barils par jour à 400 000 barils par jour, d'après les derniers chiffres de l'OPEP de juin. Donc ça s'est effondré. Et donc, deuxièmement, c'est la première fois, si vous voulez, qu'on mette des sanctions contre la Syrie, l'Europe. Ok, mais là, on demande à un parti tiers de les respecter. Je crois que c'est jamais arrivé. Très clairement, le Royaume-Uni a fait ça, on soupçonne très fortement, sous la demande américaine. Donc, vous imaginez du côté iranien, c'était une application sous couvert du droit international, on en revient là-dessus, d'une politique de sanctions contre...
Vous voulez dire, Thierry Coville, que les Iraniens seraient plus dans une réaction, dans une sorte, entre guillemets, de représailles que de tentative de provoquer un accident pour aller peut-être au conflit?
C'est pas ce que je dis. Je crois que le guide Ali Khamenei a fait un discours il y a quelques jours. On s'attendait tous à ce type de réaction. Il a dit, il y aura une réaction de l'Iran. Donc, on le voyait venir. C'était gros comme une maison. Même les diplomates anglais, il y a eu un article dans The Guardian il y a 2-3 jours. Les diplomates anglais, je pense, on revient à la faiblesse politique britannique actuellement. On ne sait pas trop pourquoi cette décision a été prise. En Angleterre, ils savaient très bien qu'il allait y avoir ce type de réaction d'Iran.
Comme promis, nous sommes en ligne avec François Nicoulot. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez été ambassadeur de France en Iran de 2001 à 2005. Et c'est une période très intéressante parce que vous étiez en poste quand Dominique de Villepin s'est rendu à Téhéran pour amorcer les discussions sur le nucléaire, qui ont fini par aboutir avec cet accord de Vienne en 2015. François Nicoulot, ça veut dire que le dialogue est possible avec la République islamique. Quel est le mode d'emploi pour parler aux Iraniens?
Le mode d'emploi, c'est de les respecter, de créer un minimum de, de rapport humain dans la relation, si vous voulez. Si on commence par taper, il ne se passe rien. Alors ça, c'est vraiment classique, c'est vrai du temps de la République islamique, mais c'était vrai du temps du Shah. Les Iraniens se crispent, se durcissent et réagissent précisément en répondant de la même façon. Donc ça ne donne rien. Et là, c'était assez frappant à l'époque, pour reprendre une vieille affaire, donc en 2003, les Américains venaient d'être entrés en Irak, ils étaient un peu ivres de leur victoire, ils mettaient une pression très forte sur l'Iran, qu'ils soupçonnaient donc de développer un programme nucléaire clandestin, et là, les Européens ont dit non, non, stop, allez, on se calme, on va voir sur place, et ils ont accompli à trois, parce qu'il y avait Villepin, mais il y avait également
L'Allemagne.
Le ministre des Affaires étrangères anglais et le ministre des Affaires étrangères allemand,
voilà.
C'est-à-dire Stroh et Fischer. Et là, ça a été tout à fait intéressant parce que c'était la première fois que ça arrivait en Iran. Jamais l'Iran avait reçu la visite de trois ministres de trois pays majeurs, disons.
Monsieur Nicolo.
Et là, j'étais extrêmement flatté. Et finalement, ça a permis d'amorcer une négociation qui finalement n'a pas réussi sur le moment. Hein,
mais qui a fini par aboutir.
Plus tard, elle a échoué. Mais finalement, bon an, mal an, la négociation s'est poursuivie jusqu'en 2015, où là, ce sont les États-Unis qui sont arrivés au résultat de cet accord nucléaire conclu à Vienne, donc le 14 juillet 2015.
Et aujourd'hui, en 2019, François Nicolo, quel peut être le rôle de la France? On sait que Emmanuel Macron a envoyé son conseiller diplomatique à Téhéran il y a deux semaines. Il se pose en médiateur, Emmanuel Macron.
Peut-être pas en médiateur, mais en tous les cas en intermédiaire, en quelqu'un de bonne volonté qui essaye de raccorder un peu les liens entre tout le monde. C'est pas une tâche très facile en ce moment. Ce n'est pas une tâche impossible. En tous les cas, cela continue. Les Iraniens viennent d'envoyer un émissaire auprès du président Macron. Donc le dialogue continue. Manifestement, on cherche une porte de sortie. Cette porte de sortie, on ne fera pas rentrer, évidemment, les États-Unis dans l'accord nucléaire qu'ils ont quitté il y a à peu près un an.
Il y a un an.
Ça, ils l'ont bien dit. Et les Iraniens ne vont pas renégocier cet accord. Ça, ils l'ont également dit sur tous les tons. Ils considèrent que c'est un bon accord, qu'il faut y rester. Mais ce qu'on peut trouver, c'est quand même des accords limités pour faire baisser la tension. Les Américains, donc, autorisant à nouveau des achats de pétrole iraniens, donc levant au moins certaines sanctions.
Certaines sanctions économiques,
oui. Et les Iraniens,
oui,
faisant certains gestes, peut-être sur leur programme nucléaire ou sur d'autres.
Dernière question avec vous, François Nicolo, ancien ambassadeur de France en Iran. On évoquait tout à l'heure cette démarche européenne de diplomatie. Vous pensez qu'aujourd'hui, la situation est propice à ce genre de démarche, notamment avec le Royaume-Uni qui sort de l'Europe et qui regarde plutôt du côté de Donald Trump?
Les situations ne sont jamais très très propices pour des négociations de ce genre. Ce que je note quand même, c'est que les Britanniques, malgré tout ce qu'ils ont fait récemment, sur cet accord nucléaire, ils sont très attachés à maintenir le trio qu'ils avaient constitué il y a maintenant une quinzaine d'années. Et beaucoup de déclarations, par exemple, se font toujours entre les trois Européens, également la personne qui dirige le service de relations internationales
de l'Union européenne,
Mogherini et bientôt Joseph Borrell. Voilà, on en est là. Là, il y a quand même, parce que ces gens-là, enfin ce petit groupe, il est toujours membre de l'accord nucléaire, précisément.
Ouais.
Et à l'intérieur de l'accord, ils essayent toujours d'agir, si possible, avec les deux autres membres qui y restent, évidemment avec l'Iran, mais les deux autres membres qui y restent, qui sont la Russie et la Chine. Donc il y a encore 5 pays qui sont à l'intérieur de cet accord pour dialoguer avec l'Iran. Et là, il y a un fil qu'il faut maintenir vivant.
Merci beaucoup, François Nicolo, d'avoir été en ligne avec nous, ancien ambassadeur de France en Iran. Je reviens à notre invité en studio, Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. On vient d'entendre l'ambassadeur qui nous dit, pour parler avec les Iraniens, il faut d'abord leur montrer des marques de respect. C'est pas vraiment ce que fait Donald Trump.
Ah oui, c'est moi qui suis d'Iran depuis un moment, j'ai l'impression d'un retour. C'est presque... George Bush, le néoconservatisme, c'est quasiment sans théorie. Donc c'est une sorte de haine de l'Iran affichée. Il n'y a même pas de base théorique, c'est des déclarations haineuses, hein, carrément. Le problème, c'est qu'on, c'est pas cohérent, parce que il faut quand même rappeler, ouais, ils sont sortis de l'accord quand même en mai 2018. Quoi, quelques jours après, Mike Pompeo, secrétaire d'État, dit il y a 12 points sur lesquels l'Iran doit céder et on ouvrira des négociations. Ces 12 points, c'était carrément une reddition de l'Iran. Il fallait qu'ils arrêtent de soutenir le Hezbollah, qu'ils arrêtent d'intervenir en Syrie, qu'ils renégocient le programme nucléaire, qu'ils arrêtent leur programme balistique. Une reddition de l'Iran. On savait que ces 12 points, c'était irréalisable. Donc l'Iran ne céderait pas. Et là, depuis quelques semaines, tout d'un coup, Trump dit « Ah ben tiens, je donne mon numéro de téléphone à l'ambassade de Suisse pour que les Iraniens appellent. » Donc à la limite, je suis d'accord avec... François Nicolau, que tout le monde cherche des solutions, mais le problème aussi qui se pose, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que veulent les États-Unis.
Mais d'ailleurs, hier soir, chef-d'œuvre d'ambiguïté de Donald Trump qui déclare « négocier ou faire la guerre, les deux me vont ».
Non mais c'est bon, c'est un peu du grand n'importe quoi. Excusez-moi, je veux dire, il est sorti. Ils sont quand même, faut rappeler les faits, parce que les Américains, je pense, c'est pas de stratégie. C'est, on fait plein de bruit, on essaye de faire passer justement pour l'Iran un pays avec lesquels on peut pas négocier. On diabolise l'Iran. On est en plein là-dedans. Mmh. Donc les faits, ils sont clairs. Et François Nicolau les a rappelés. Les États-Unis sont sortis sans raison de cet accord. Ils n'ont aucune raison. Ils n'ont pas respecté le droit international. Cet accord a été validé par une résolution des Nations Unies. Ils ont appliqué des sanctions extraterritoriales. Ils n'ont pas non plus respecté le droit international et
le droit
des Européens.
Qui empêche les entreprises françaises, par exemple, comme Total, Peugeot ou Air France, de commercer avec l'Iran?
Ça, c'est un non-respect. Là, on passait à un non-respect absolu de la souveraineté européenne. Donc, si vous voulez maintenant nous faire croire que, c'est l'Iran qui est méchant, c'est l'Iran qui déstabilise la région, etc., excusez-moi, là, c'est pas ce qui s'est passé.
Mais est-ce que vous en avez un peu parlé? Est-ce que les Américains sont pas plus préoccupés que par le nucléaire, sont pas plus préoccupés par cette sphère d'influence iranienne? On regarde une carte à nouveau, on part de Téhéran, on passe par Bagdad, on traverse toute la Syrie, on arrive en Méditerranée où il y a encore des alliés fidèles, le Hezbollah au sud Liban et certains mouvements islamistes à Gaza. L'Iran a une espèce d'autoroute qui va jusqu'en Méditerranée, c'est pas ça qui fait peur aux Américains?
Oui, alors ça mériterait une autre émission, parce que bon, il faut voir du point de vue iranien, si vous discutez avec eux, ils sont plus dans une stratégie défensive. Je pense qu'ils ont aussi des éléments stratégiques communs avec nous, c'est qu'ils luttent contre l'État islamique, ils luttent contre Al-Qaïda, ils veulent la stabilité dans la région. Donc cette histoire qu'ils envahissent la région, c'est encore du grand n'importe quoi. Je pense qu'ils, notamment ici, ils sont en Syrie, s'ils sont en
sphère
Irak.
D'influence, c'est pas forcément sphère d'invasion.
Non, ils ont des alliés.
Vous nous
dites. Ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont des alliés sur place qui sont élus. Donc si vous voulez, s'ils étaient aussi méchants et aussi envahisseurs, ils n'auraient pas d'alliés qu'ils ont une légitimité locale, si vous voulez. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et je note également, c'est en termes de stratégie. Dire à la limite les Européens. Discuter avec des diplomates européens, ils ont également des problèmes avec la politique régionale de l'Iran, ils ont des problèmes avec le programme balistique iranien, mais c'est quoi la meilleure stratégie? C'est d'abord de respecter ce qu'on a signé avec eux en les considérant comme un État normal, en les respectant et en tenant l'accord. Ensuite que ça tient, on peut discuter d'autres choses. Cette stratégie américaine qui consiste, on donne un coup de pied dans la table, non, cet accord est nul, c'est le plus mauvais accord jamais signé, et puis on renégocie surtout, on voit dans quel désastre ça nous mène aujourd'hui.
On va au standard à 8h35, 01 45 24 7000. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous et à nos invités qui ont déjà un petit peu répondu à ma question. Je voudrais savoir pourquoi nous ne soutenons pas plus clairement l'Iran, qui est une pensée montrée vertueuse, disons, par rapport au traité qu'il avait signé. Ensuite, parce qu'on n'a pas intérêt, me semble-t-il, d'avoir...
Quand vous dites « nous », vous dites qui, Frédéric? « Nous », c'est...
Je dirais d'abord la France. Moi, j'aurais aimé que l'Europe suive également, mais on sait quelles sont les difficultés à avoir une politique européenne, disons, homogène. Mais enfin, au moins la France, qui quand même a une voix qui porte, pourrait le soutenir de façon plus importante et plus claire.
Merci de votre question, Frédéric. Thierry Coville vous répond.
Oui, alors je partage les critiques de l'auditeur. Moi, bon, il faut reconnaître que l'Europe a quand même défendu l'accord. Donc l'Europe a été timide, mais on a dit on tient à cet accord, on veut que l'Iran reste dans l'accord. Là, on peut critiquer l'Europe, c'est qu'ils n'ont rien fait concrètement. L'Iran a demandé pendant un an aux Européens faites quelque chose pour contrer les sanctions américaines qui sont également votre intérêt, puisqu'on l'a dit, c'était quand même contre la souveraineté européenne. Et là, on en revient, ça dépasse le cadre de l'Iran, c'est la faiblesse politique de l'Europe, l'incapacité à s'organiser sur le plan juridique, sur le plan politique. Alors je note quand même, on vient d'en parler, je pense qu'il y a une implication plus importante, notamment du président français Emmanuel Macron. Moi, je pense que c'est la bonne politique. J'aurais préféré que ça intervienne avant, mais je pense que là, on a l'impression qu'on s'engage un peu plus. Ce qui est important, et ce qu'a dit François Nicolau, mais ça paraît comme ça, comment dire, pas très important, mais c'est d'être présent, de discuter avec les Iraniens, de les respecter. Et ça, je pense que ça a été bien compris par Emmanuel Macron.
Mais quand, par exemple, on le sait, Jean-Yves Le Drian, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, quand il était ministre de la Défense, avait noué des relations très étroites avec l'Arabie Saoudite ou l'Égypte du maréchal Sisi, c'est pas fait pour détendre les Iraniens, si je puis dire.
Ben, ça a pas trop marché. Enfin, je vais rappeler toute cette période, mai 2018, mai 2019, où les Iraniens attendaient des gestes de l'Europe. Là, on a été très timide et très absent. Donc, et je veux dire, il y a un également problème, c'est la volonté politique de défendre nos intérêts. Parce que derrière ce problème-là, je veux dire, quand Donald Trump est sorti de l'accord, excusez-moi de l'image, mais il a donné un coup de sifflet en disant « Ah non, non, vous êtes une entreprise européenne, vous choisissez entre le marché américain et le marché iranien. » Mais c'est proprement scandaleux, on n'a rien fait. Donc il est temps aussi qu'on défende nos intérêts, qu'on joue les intermédiaires pour calmer le jeu, ça c'est très bien, mais qu'on défende nos intérêts, que je veux dire, là on voit très bien, les rapports de force, ça compte au niveau international. Donc pour défendre le droit international, pour défendre nos souverainetés, là ils font que la France s'engage et l'Allemagne, j'espère le Royaume-Uni, et qu'à, là il faut qu'on rentre dans un rapport de force, éventuellement avec les États-Unis.
Avant de retrouver Emmanuel qui patiente au standard, une question Thierry Coville, est-ce que finalement Donald Trump ne risque pas d'obtenir le contraire de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire un durcissement du régime iranien et que les « entre guillemets durs » du régime puissent l'emporter sur les « entre guillemets modérés » ?
C'est ce qui est déjà arrivé. Là, depuis un an, il faut voir, c'est que la branche modérée qui était derrière cet accord, Rouhani, le président, le ministre des Affaires étrangères, Zarif, il y a deux branches en Iran. Une qui veut une approche constructive.
C'est Zarif, hein,
voilà, Zarif, Rouhani, qui ont été élus pour ça. Ils sont délégitimés parce que la population iranienne dit « Mais dans quel gouffre vous nous avez menés ?»
Oui, hein. Zarif, hier soir, disait « Commencer un conflit peut être facile, y mettre fin serait impossible. »
Oui, oui, non, mais je veux dire, là, donc, cette branche modérée et délégitimée, elle existe quasiment plus politiquement en Iran. Et ceux qui existent, c'est ceux qui disent depuis le début, attention, cet accord, c'est un piège des Américains qui veulent nous affaiblir, les Occidentaux ne croient pas au droit international. Et malheureusement, si vous voulez, cette branche radicale, ben, les faits lui ont donné raison. Et vous avez raison, elle a de plus en plus de poids en Iran. Elle explique d'ailleurs le durcissement de la politique iranienne depuis début mai 2019.
Allez, on retourne au standard. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Monsieur. Je souhaiterais en fait savoir pourquoi la dictature iranienne ou syrienne est moins fréquentable que celle du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Et finalement, est-ce que on n'a pas fait un choix de longue date d'être un peu le valet des États-Unis et de ne pas avoir un sens propre de la diplomatie internationale où nous sommes finalement à la botte d'un grand pays, mais absolument pas autodéterminés dans nos décisions.
Merci pour votre question en forme de mini-édito, Emmanuel. Restez à l'écoute, Thierry Coville vous répond.
Oui, alors, si vous voulez, moi je pense qu'il ne faut pas être dans un camp ou dans un autre. Là, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas des relations normales avec l'Iran. Je pense que la France et l'Iran, l'Europe et l'Iran, on a beaucoup à gagner les deux. Donc ça peut être, pour obtenir utiliser un dialogue de théorie des jeux, gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas non plus, si vous voulez, il ne s'agit pas de choisir un camp. Hein, et c'est là, déjà, on est l'erreur, parce que je pense que du côté saoudien, il y avait la stratégie qui consiste à dire aux diplomates français du peintre européen, écoutez, attention, hein, c'est nous l'Iran. Non, non, il faut sortir de ce jeu, on a des intérêts. L'Iran, c'est un grand marché, mais c'est pas que ça. C'est aussi un grand pays, une grande culture. C'est un grand pays stratégiquement. On peut pas avoir la stabilité dans la région. Donc, on a des intérêts européens et français à avoir des bonnes relations avec l'Iran. Et là, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Emmanuel. C'est-à-dire, il faut défendre nos intérêts. Et puis, effectivement, si ça conduit à des frictions avec les Américains, tant pis. Il faut penser d'abord à défendre nos intérêts.
Mais c'est pas seulement des frictions avec les Américains. C'est des frictions avec les Saoudiens, avec Israël de Netanyahou, Trump, MBS, Netanyahou, en face de n'importe quelle gouvernance, ça fait du poids.
Oui, oui, si vous voulez, mais je pense aussi, si vous voulez, l'idée c'est de faire comprendre aussi, même si c'est difficile à certains interlocuteurs, c'est que, comme l'a dit très bien François Nicolau, pour arriver à des résultats avec l'Iran, il faut les prendre au sérieux, il faut négocier avec eux et tenir nos engagements. L'idée qui est derrière beaucoup de politiques, si vous voulez, on veut affaiblir l'Iran du côté saoudien, éventuellement du côté israélien, mais qu'est-ce qu'il y a comme stratégie derrière ? Il n'y a rien, c'est une sorte de défaite. J'espère, mais éventuellement militaire, quand on écoute certains discours, mais ça va apporter que la catastrophe. Donc la stratégie européenne est la bonne, c'est de prendre au sérieux l'Iran, de le respecter, de le prendre comme un pays qui a également des intérêts dans la région et d'arriver avec des accords avec eux. Le problème, c'est quand même, c'est pas toujours l'Iran qui tient pas les accords. On vient d'en parler, hein, l'accord de juillet 2015, c'est les États-Unis qui en sont sortis sans raison.
Pour finir, je voudrais vous soumettre deux questions ou deux remarques d'auditeurs Thierry Coville. Christian nous dit « Votre invité semble oublier que l'Iran souhaite la destruction d'Israël. Doit-on laisser l'Iran continuer à armer le Hezbollah et à intervenir en Palestine ?»
Oui, alors, si vous voulez, moi j'essaye de m'intéresser aux faits, justement j'essaye de ne pas prendre un parti pour un autre. Là, c'est faux. Donc, parce que je sais que c'est beaucoup répété, l'Iran ne souhaite pas la destruction d'Israël. Cette fameuse phrase, on entend régulièrement ça sur certain nombre de médias, notamment israéliens, l'Iran souhaite régulièrement la destruction d'Israël. C'est faux. La phrase d'Ahmadinejad,
l'ancien président,
il avait dit, mais je dis pas que c'est bien, mais il avait dit, le régime sioniste, que l'Iranien appelle Israël, disparaîtra au cours du temps. Ça a été traduit en l'Iran doit, Israël devra être détruite, quelque chose comme ça. Donc c'est faux. Et de dire que les dirigeants iraniens répètent régulièrement ça, c'est faux. Un des gestes.
L'ayatollah Khamenei, qui est le vrai leader de l'Iran, ne dit pas.
Non, il va ça régulièrement. Il y a une opposition, appelez-la comme vous voulez, frontale contre ce qu'ils appellent le régime sioniste, une défense de la cause palestinienne, d'ailleurs depuis la Révolution. Ça, c'est clair. Mais de dire que l'Iran souhaite la destruction d'Israël, c'est fou. Je rappelle comme ça, mais c'est pas qu'une anecdote. Il y a une communauté juive en Iran qui peut respecter, pratiquer sa religion. Et une des premières gestes de Rouhani, c'était de montrer justement cette phrase d'Ahmadinejad, ça a conduit à beaucoup de problèmes en Iran. Beaucoup de gens l'ont accusé avec ses déclarations, effectivement, quasiment antisémites parfois, d'avoir fait le jeu des ennemis de l'Iran. Et je note, il n'y a pas beaucoup de pays, quand il y a eu les élections présidentielles en Iran en 2009, il y avait Karoubi qui avait accusé en direct à la télé Ahmadinejad d'avoir fait le jeu des ennemis de l'Iran. Donc, si vous voulez, ça conduit à un débat en Iran. Et une des, je me rappelle de Rouhani, qui est élu président de la République iranienne, qui souhaite le nouvel an juif à la communauté juive iranienne. Donc, on a tous ces gestes aussi. Donc,
plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que. Non, ça, c'est faux.
Voilà. Et en quelques secondes, même si le problème est complexe, question de Marion. Trump et son administration sont-ils sous l'influence des faucons israéliens? Faut-il s'en inquiéter?
Je pense qu'il y a deux éléments qui expliquent, si on essaie de comprendre pourquoi Trump a cette politique, mais la politique américaine, sans parler de Trump, si vous voulez. Il y a d'abord, je pense, un problème avec l'histoire des otages américains. Les Américains sont toujours dans cette idée qu'on a été humilié, il faut prendre une revanche. Et on voit très bien, ils n'arrivent pas à en sortir. Effectivement, deuxième facteur, c'est le jeu de leurs alliés traditionnels, comme l'Arabie Saoudite et d'Israël, qui disent pas de relation normale avec l'Iran, c'est un adversaire qu'il faut affaiblir.
Merci Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien.